gens amenaient des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. » Alors voilà plusieurs fois que je centre ma méditation sur ce message. Et le mois dernier, pour un autre culte de baptême, j'avais déjà pris ce texte de Marc, et j'avais dit à ce moment-là que je poursuivrais mon message. Je vais donc le reprendre là où je m'étais arrêté, même si on n'était pas là, on peut sans problème le suivre. Si vraiment on a trop envie d'entendre ce que j'avais dit, eh bien on pourrait l'entendre parce que je voulais l'avoir enregistré, mais en fait ça n'a pas marché. Les autres cultes, oui, mais pas celui-là. J'aurais mieux fait de le faire. Voilà, les autres cultes sont maintenant enregistrés, on les trouve sur le site internet de l'église, vous pouvez vous les faire passer, vous n'avez pas ce genre de prix, vous demandez à quelqu'un de votre entourage qui pourra faire ça pour vous. Voilà, j'avais expliqué que laisser les enfants venir à Jésus, c'est la phrase sur laquelle, le verset sur lequel je voulais m'arrêter, qui n'est pas forcément celui dont on fait la pointe de ce texte, mais c'est celui qui m'a intéressé. Laisser les enfants venir à Jésus, c'est pas seulement juste venir au culte le dimanche ou à l'école publique ou au cadet, ce qui est déjà très bien, je l'avais expliqué. J'avais dit que c'était en chaque chose de la vie de nos enfants qu'il faut veiller à ce que bien ceux qui vivent les mènent véritablement à Jésus, c'est-à-dire que ça les mène à celui qui est le visage du Père, le visage d'une vie libérée, pour le dire autrement avec les paroles de Jean, de mener à celui qui est chemin et vérité et vie. Alors c'est à chacun de réfléchir pour lui-même, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ma vie que ce chemin de vérité et de vie. Dans ma vie, dans mon travail, dans mes loisirs, et puis j'avais dit aussi à l'école. Et c'est surtout sur ce point-là que je veux parler aujourd'hui, à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire que mettre ses enfants sur un chemin de vérité et de vie, à chaque moment de la vie, mais particulièrement à l'école, dans la vie de tous les jours. Être croyant, ce n'est pas seulement penser toujours à Jésus ou à Dieu. C'est vivre en cohérence avec l'Évangile. C'est mesurer si les orientations concrètes que je prends dans la vie sont cohérentes avec la parole de liberté, de respect, de confiance que je reçois du Père, cette parole que nous avons entendue et vue à travers le baptême. C'est ça que nous dit le baptême. Je t'aime avant toute chose. Avant que tu sois même né, je suis là pour toi et tu es mon enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de mettre la vie de nos enfants en adéquation avec cette foi-là? Si Jésus nous exhorte à trouver cette vie en plénitude, c'est pas seulement, eh bien de temps en temps, au cours d'un moment un peu particulier où on est entre soi, dans le temple, ou alors peut-être à une réunion de prière, ou même chez toi, tout seul, devant Dieu. C'est pas seulement là, mais c'est à chaque instant, dans tous nos engagements. Et pour les petits-enfants, même si, eh bien, le voit encore quelques temps, avant de se retrouver à l'école, mais c'est déjà le cas pour son frère, pour ses cousins, et ça dure longtemps l'école, même pour ceux qui essayent de s'en échapper un peu plus tôt, ça dure des années, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça dure très 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 longtemps. Et ça occupe beaucoup du temps, en fait, d'une semaine de vie. Nos enfants, quand on les confie à la maternelle, à l'école primaire, au collège, ou plus tard, eh bien, on y laisse une grande partie de leur vie. Il est nécessaire de savoir ce qui s'y joue et de s'assurer que, eh bien, là aussi, ils sont sur un chemin qui mène à Jésus. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut que je clarifie ma pensée pour qu'il n'y ait absolument pas de malentendu. Parce qu'on peut s'aventurer sur un terrain qui est un peu glissant. Alors, je suis pasteur église réformé, je suis tout à fait en accord avec notre tradition d'église qui a toujours soutenu la laïcité à l'école et la séparation des églises et de l'État. historiquement que les protestants, pourtant minoritaires, ont été parmi ceux qui ont poussé à la séparation des églises et de l'État. C'était dans un intérêt bien compris, en fait, c'était dans le but de pouvoir simplement continuer d'exister en France sans être constamment un peu écrasé par l'autre profession chrétienne qui était tellement majoritaire que, pas forcément par volonté de ma frère, mais souvent par oubli, écrasait facilement les petits chrétiens protestants qui étaient si peu nombreux. Alors, c'est pas ce qu'on fait l'expérience ici, c'est bien différent, mais historiquement, c'est ça. Donc, séparons les choses. Il y a l'école qui est là pour transmettre un enseignement, des valeurs, et puis il y a ce que nous croyons et la pratique culturelle qui se fait autant que dans un cadre réservé et particulier. L'école n'est pas là pour enseigner une doctrine religieuse, en aucun cas. Mais l'école est là pour nous apprendre à vivre ensemble, quelles que soient nos opinions et nos convictions. Elle nous invite, est là pour nous apprendre à vivre ensemble, différents, que ce soit des différences confessionnelles, de convictions, mais aussi des différences d'origine sociale. C'est le projet de la République et je crois que ça reste ce projet toujours. Alors, on pourrait débattre de la question de l'enseignement religieux à l'école, des écoles peut-être alternatives qui existent et qui sont aussi importantes. Il y a tout un tas de choses intéressantes à explorer, mais ce n'est pas de ça que je veux parler, pas même de l'enseignement religieux à l'école. Mener nos enfants à Jésus, les laisser venir à Jésus, cela se fait d'abord par notre pratique de foi et de piété familiale. Demander le baptême, donner un enseignement religieux, peut-être lire la Bible ensemble, peut-être prier, je l'espère, toutes ces choses mènent à Dieu. Mais pas seulement. Cela se fait en tout lieu également, en tout lieu de la vie, dans l'aspect éthique de nos engagements. C'est l'aspect éthique spirituel de notre foi. Il n'y a pas besoin de se présenter comme religieux, il n'y a pas forcément besoin d'avoir Jésus ou Dieu à la bouche sans arrêt pour continuer de vivre ça. Car le chemin qui mène à Jésus, ça l'Évangile est très clair là-dessus, ce n'est pas d'abord un chemin de pieuse prière, je pèse mes mots, ce n'est pas d'abord un chemin de pieuse prière, mais c'est un chemin d'intégration d'une certaine relation à Dieu et d'une certaine relation aux autres, à la société et à soi-même. On a lu Deutéronome 6, 1 à 9, la prière qui est la prière centrale des Juifs. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée. Et Jésus rajoute dans le Nouveau Testament, et ton prochain comme toi-même. Ça fait partie de notre foi de chrétien, la relation à Dieu et la relation à l'autre. Et on ne peut pas négliger la relation à l'autre. Et cette relation à l'autre, alors bien sûr, elle se fait dans la prière, mais elle se fait surtout dans la vraie vie. Et la vraie vie, ben, c'est le travail. Et pour les enfants, c'est beaucoup l'école. Et du coup, il faut nous poser la question sérieusement, c'est pas toujours si simple. Dans ces lieux de scolarisation, quels que soient les endroits, est-ce que ce qui est donné comme nourriture à nos enfants, est-ce que ce sont des choses qui mènent à ce chemin de Jésus que nous recevons, nous, de la Bible? Et moi, je suis persuadé que ce chemin qui mène à Jésus, eh bien, il passe par des manières de vivre, d'être éduqué, d'être enseigné, qui se manifestent en fait à l'extérieur d'une manière qui n'est pas forcément religieuse. On ne voit pas forcément de l'extérieur celui qui vit en chrétien. Et bien souvent, ces chemins qui mènent à Jésus, eh bien, rejoignent des voies qui sont communes avec celles de l'humanisme, et même de l'humanisme peut-être athée, puisque je crois que c'est souvent l'éducation nationale l'origine des convictions de beaucoup d'enseignants, sinon religieuses, c'est celle de l'humanisme. Alors, essayons d'être au clair nous-mêmes avec quelles sont ces valeurs que nous recevons de l'Évangile et qui peuvent se traduire d'une manière non religieuses et pour autant qui sont particulièrement importants. Le chemin qui mène à Jésus, et tout ça est contenu dans le tout petit texte de Jésus et des enfants. Il y a 4 versets, mais il y a déjà tout ça. Et c'est ce que nous avons aussi dit par le baptême. Le chemin qui mène à Jésus, c'est d'abord un chemin d'accueil inconditionnel. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que tu es mon enfant. C'est ça qu'il y a au cœur de la prédication de Jésus et au cœur de notre foi. Alors, à partir de là, il y en a beaucoup de choses à mettre en adéquation avec cette parole-là. Parce que l'accueil inconditionnel dans notre monde et aussi dans le milieu scolaire, c'est pas facile à vivre. Alors, ça peut faire partie des choses que l'on dit vouloir faire. Mais c'est loin d'être aussi simple. Chacun doit être accepté pour ce qu'il est et pas jugé seulement en fonction des résultats qu'il donne. Là, on est déjà un peu en porte-à-faux avec le système scolaire qui aujourd'hui est beaucoup construit autour de l'évaluation, on va dire notée, des élèves et des tout petits. Alors, moi, je ne suis pas enseignant, peut-être que ce n'est pas toujours simple pour les enseignants de savoir quoi faire avec ce système et avec comment faire autrement, peut-être. Mais je crois que nous sommes là pour résister, en tant que chrétiens, à l'idée que la valeur des gens viendrait de leur performance. Ça, c'est une idée qui nous est agréable quand on réussit. Mais généralement, quand on est dans la compétition, il y en a très très peu qui réussissent. On l'a vu pour les Jeux Olympiques cet été. Moi, j'étais un peu malade d'entendre sans arrêt ces commentaires, là, je ne sais pas où, à la radio, à la télé. Ah, on a encore reçu une médaille, etc. Et puis, si je n'avais pas de médaille française, je n'avais rien, s'était passé aux Jeux Olympiques. Et puis, quelques temps après, quand même, ça m'a fait plaisir d'entendre quelqu'un qui disait, mais et tous les autres, et tous les autres qui sont entraînés, qui continuent de s'entraîner, ils n'ont pas été sélectionnés. Est-ce qu'ils ne servent à rien? Est-ce que c'est indifférent, leur présence? Notre système scolaire pourrait avoir cette tendance à ne s'occuper que de ceux qui réussissent, et encore, c'est un piège. Moi, j'ai peut-être eu la chance de faire partie de ceux qui ont plutôt réussi à l'école. Mais j'ai mis longtemps avant de me rendre compte que, et bien souvent, ça avait été un piège. Parce que j'avais réussi non pas avec ce que moi, petit enfant, ado, j'aurais voulu exprimer, mais j'ai réussi en me rendant conforme avec ce que l'école attendait que je fasse. Et peut-être que ce n'était pas forcément ça qui m'aurait vraiment fait vivre. La compétition, à tous les niveaux de la vie, c'est un piège. Peut-être qu'aujourd'hui on en est là et que ce n'est pas si simple de faire autrement, mais au moins soyons conscients que l'Évangile nous appelle à autre chose. Je t'aime comme tu es. Et je sais bien qu'il n'est pas si facile d'aimer celui à qui on n'arrive pas à transmettre, parce qu'il nous met face à notre échec. J'entends de la part de mes ados, mais « Ah mais oui, mais cette prof, elle s'intéresse que tu as ceux qui réussissent. » Je ne sais pas ce qu'il en est, moi je n'écoute que la parole des ados, et vous savez combien, quand on est ado, on est très très sensible à la moindre injustice, ou ce qu'on perçoit comme tel, mais il y a beaucoup de ça. C'est pas facile d'aimer celui qui ne répond pas à ce qu'on lui demande. C'est peut-être parce qu'il n'y arrive pas, peut-être parce qu'il y a trop de, aussi parfois de violence en lui. Hein. Comment faire pour répondre à ça? Je crois qu'on a deux, trois outils dans notre Bible pour cela. L'accueil inconditionnel contre la compétition. Un chemin de paix. Et là, on est aussi un peu sur le même plan. L'Évangile, c'est un chemin de paix. On en a besoin de cette paix aujourd'hui dans ce monde de stress. Et moi, je constate avec ma petite fille de 4 ans que le stress, il commence tôt à l'école. Il commence tôt, alors elle s'induit par l'école, elle s'induit aussi par les parents, il y a tout qui joue là-dedans. Mais je suis parfois un peu peiné que déjà à 4 ans, on se mette dans une situation de tension parce qu'on n'arrive pas. Et ce que je constate, c'est que ça dure longtemps cette histoire. J'ai le souvenir d'un atelier de partage avec des collègues en études de théologie, donc des gens qui, pour la plupart, avaient passé la trentaine, ils avaient eu un premier métier dans lequel ils avaient généralement réussi, et ils reprenaient des études, après généralement en avoir déjà fait. Et puis un de nos copains, pour animer l'atelier, elle avait fait une bonne surprise, il nous avait dit « Prenez un stylo, on va faire une dictée. » Et là, il fallait voir la tête de tous ces gens qui étaient au moins Bac plus 3, 4, 5, et qui est devenu tout blanc. Parce que la dictée, c'est le truc qui paralyse tout le monde. Alors, je ne sais pas comment font les enseignants, peut-être parfois ils essayent de trouver d'autres systèmes de la dictée, une dictée avec peut-être des mots qu'on connaît, on est déjà plus en terrain connu. Ça paraît bête de dire des choses comme ça, mais c'est quoi la logique de la dictée? La dictée, c'est, je fais un exercice où je dois écrire 50 mots. S'il y a à peu près 5 lettres par mot, 50, ça fait 250, ça fait 250 lettres. Généralement, une faute, c'est une lettre ou deux. Et on compte le nombre de lettres fausses. Donc on a 5 fautes. 5 fautes, c'est nul, hein. C'est vraiment pas bien. Et puis quand on en a 20, là, on n'en perd même plus. On est désespéré. Si on regarde toujours la vie comme on regarde une dictée, on devient déprimé. C'est obligé. C'est vraiment regarder la vie par le petit bout de la lorgnette, celui qui ne marche pas. Alors peut-être que parfois on a besoin de passer par ces détours pédagogiques, moi il me semble qu'il y aurait sans doute d'autres manières de faire. Mais ce qui se passe, ce n'est pas tellement la question de l'orthographe qui m'intéresse. Mais c'est ce qu'on apprend sur la vie. Quel regard on apprend sur la vie? J'ai fait 5 fautes, je suis nul. Eh oui, mais tous les autres, vous avez écrit juste. Et alors, c'était pas mal quand même. Alors, ça fait partie des petites choses qui peuvent mener à la désespérance. Des petites choses qui semblent anodines, bah oui, la dictée, il faut qu'on en passe par là. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Alors, on n'est pas là pour se mettre à la place des enseignants, quoique certains font le choix d'enseigner eux-mêmes à leur enfant, mais enfin, c'est pas toujours si facile. Mais je pense qu'on peut peut-être les accompagner pour, justement, témoigner auprès d'eux. Alors, les parents, mais des fois, c'est pas si facile quand on est parent, mais justement, le parrain et la marraine, ou les grands-parents qui ont le recul de la vie, qui ont peut-être pu relativiser un peu les fautes qu'ils ont pu faire à leur dictée, témoigner auprès d'eux d'un regard de confiance et de paix. Et ta personne ne se résume pas à tes performances, ni celle de la logique, de la mathématique, ni celle de la connaissance, ni celle de tes capacités à bien écrire. Alors bien sûr, ça sert dans la vie de savoir bien écrire. Donc tant qu'à faire, on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Mais le plus important est ailleurs. Et là-dessus, il faut tenir. Et il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais je terminerai par celle-là. C'est le chemin qui mène à Jésus, c'est un chemin d'accueil inconditionnel. C'est un chemin de paix et c'est un chemin de joie. Et là, ça rejoint ce que je disais sur la dictée. Ce chemin, il est contre le regard noir qu'on peut poser sur les choses. La joie, c'est peut-être comme un sentiment de lumière, d'espace qui se creuse en nous. Je ne sais pas, rappelez-vous des moments de joie. La joie, c'est comme si notre corps reprenait sa place, alors que généralement, on est un peu crispé comme ça, qu'on le veuille ou non. Et dans la joie, peut-être qu'on va rire, peut-être qu'on va chanter, et le corps reprend sa place. Et chaque enfant est appelé à prendre toute sa juste place. C'est d'abord ça qui m'intéresse. Alors j'ai parlé déjà trop longtemps, c'était peut-être un peu confus, mais j'espère que ça vous donnera en tout cas envie de poursuivre la discussion entre vous. Je trouve qu'il y a un énorme enjeu avec notre système scolaire. Et s'il y a une chose qui me pose énormément de questions aujourd'hui, j'en ai parlé avec mon conseil, c'est que notre système scolaire est entièrement basé, depuis 4 ans jusqu'à 18 ans et plus, sur l'acquisition de connaissances intellectuelles. Certains ne supportent pas ça et quittent l'école à la fin de la troisième pour avoir un métier plus pratique, pour faire des choses concrètes. Malheureusement, ces métiers-là, les plus souvent, ce n'est pas ceux qui sont les plus valorisés au niveau de la vue. Hein. C'est pourtant, il y a souvent, je pense, un réflexe assez sain de dire « mais moi, je veux faire quelque chose de mieux ». Acquérir des connaissances, c'est nécessaire. Affûter son intelligence, c'est nécessaire. Mais je crois que nous avons chacun de nous, et tout particulièrement en tant que parents, à réaliser l'ordre des choses qui nous est proposé par l'Évangile. L'ordre des choses, ce n'est pas d'abord d'avoir connaître des millions de choses dans sa tête. C'est de savoir se tenir en relation avec Dieu et avec ses voisins. Et la question d'apprendre à vivre ensemble, très sincèrement, dans notre société, je ne vois pas qu'elle est mise au centre de l'enseignement scolaire. ça se fait comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument dramatique là. Vivre ensemble en tant qu'humain, on le sait, c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Alors pourquoi est-ce que l'école de la République, n'aurait pas plus à cœur d'apprendre aux petits citoyens français à savoir vivre ensemble? Alors, je sais que ça fait partie des objectifs, et notamment dans les plus petites classes. Mais enfin, quand on lit les circulaires ministériels, etc., on se rend compte que c'est quand même malgré tout. Oui, il faut faire ça, mais il faut faire en plus de tout le reste. Et ça tient quasiment de quelque chose d'impossible. Moi, je crois que quand nos parents, nos grands-parents peuvent demander ça, les connaissances, on peut toujours les apprendre quand vraiment on a envie. Il y a des gens ici que je connais, des gens qui n'ont jamais fait d'école et qui ont appris. Parce qu'un jour, ils se sont rendus compte que ça pouvait être bien d'apprendre à lire, de compter, de maintenir ça. Ça, on peut toujours l'apprendre. Par contre, l'intelligence relationnelle, on a besoin de guides pour ça. C'est loin d'être simple. Dans la famille, des fois, on fait ce qu'on peut, mais on est empêtré. Moi, j'aimerais que l'école nous apprenne ça. Qu'elle nous apprenne à rester ensemble, depuis les bancs de maternelle jusqu'au lycée ou un peu avant, avec toutes les personnes avec lesquelles on va vivre dans le reste de la vie. Parce que ce qui se passe, c'est que les copains qu'on a d'école, eh bien, alors dans le meilleur des cas, on les garde. Mais quand l'un est devenu ingénieur, chef de production, et que l'autre est devenu ouvrier ou paysan, pas facile de garder les liens, je vous assure. C'est pas facile, surtout si la seule chose qu'on a appris, c'est que ce qui compte, c'est la réussite du diplôme. Là, il y a, tout à coup, il y a des regards d'en bas, d'en haut, qui se jettent et qui rendent la vie difficile. Je pense que l'école devrait apprendre à ça, à vivre ensemble, parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les métiers, de tous les arts. Voilà, toutes ces choses que je vous ai dites, on peut les partager avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui rejettent avec beaucoup de force la doctrine chrétienne et qui pourtant sont très proches de nous sur ces questions d'éducation, y compris dans l'éducation nationale. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à essayer justement de ne pas être seulement des enseignants, des gens qui dispensent un savoir, mais véritablement des éducateurs. Je sais que c'est un débat entre les enseignants. Je crois qu'en tant que chrétien, notre position est claire. On a besoin d'éduquer.